Bac FM, il est 18h30, bon début de soirée sur le 106.1, émission exceptionnelle. Aujourd'hui, à l'occasion des 35e assises nationales des associations d'aide aux victimes qui se déroulaient à la maison à Nevers hier et aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice et garde des Sceaux, était présent. Il a répondu à mes questions. Un entretien à retrouver en fin d'émission. France Victimes, c'est l'organisme national qui prend de nombreuses victimes tous les ans en charge. Jérôme Moreau, président de France Victimes 58, est mon premier invité. Bonjour Jérôme Moreau.
Bonjour.
Vous êtes vice-président national de la Fédération France Victimes et président de l'association France Victimes 58, également vice-président de la Fédération Européenne. France Victimes, c'est un réseau de 136 associations d'aide aux victimes d'infractions pénales et qui ont pour mission l'écoute, l'information juridique, l'accompagnement psychologique entre autres. C'est une prise en charge totale sur le long terme.
Effectivement, c'est un accompagnement juridique, psychologique, sociale notamment, de toutes les victimes d'infractions et même au-delà puisqu'on accompagne toutes les personnes victimes de situations traumatisantes, quel que soit l'événement. Je pense à des suicides, je pense à des accidents collectifs comme les crashs d'avion à l'étranger, donc ça fait quand même une kyrielle de missions qui sont déployés dans le code de procédure pénale et qui peuvent aller de la simple information le jour même pour simplement une seule et unique question.
Spontanée et ponctuelle.
Voilà, jusqu'à des accompagnements qui peuvent durer effectivement plusieurs années sur les affaires les plus traumatisantes, les plus graves et les plus longues sur le plan de la procédure judiciaire puisque les instructions, on le sait, peuvent être assez longues dans un certain nombre de situations.
Avec les exemples que vous nous donnez, c'est donc répondre finalement à plusieurs enjeux en fait.
Alors effectivement, il y a le premier enjeu qui est immédiat à la commission de l'infraction, c'est que la victime puisse bénéficier de ses droits, puisse les faire valoir devant les tribunaux, et c'est pour cela que nous sommes très en relation avec les avocats. Et puis après, il y a tout l'accompagnement psychologique. Comment est-ce qu'on va faire résilience, comme on dit aujourd'hui, puisque c'est l'âge de la résilience et un peu le nouveau credo des associations d'aide aux victimes et de l'Europe aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on va absorber le choc, comment est-ce qu'on va le dépasser? Et puis il y a tout l'enjeu de l'accompagnement social des personnes. Et là aujourd'hui, avec des innovations extrêmement intéressantes qui font florès sur le territoire, comme les chiens d'accompagnement judiciaire, comme l'équithérapie, comme la sophrologie, comme l'art-thérapie, enfin tout un tas de domaines que nous découvrons au fur et à mesure, mais qui sont déjà déployés pour d'autres accompagnements.
Et ça fait lien avec l'évolution aussi de l'accompagnement, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais juste avant, France Victimes 58, dans le titre, dans le mot, dans le nom de votre association, il y a victime, mais c'est quoi une victime? C'est qui? Il y a plusieurs profils en fait de victimes.
Alors, moi j'ai pour habitude de dire qu'une victime, c'est celle qui subit un préjudice. Et donc, évidemment, un préjudice résultant de la loi pénale, puisqu'on va avoir un auteur qui va commettre une infraction pénale, et c'est le premier volet, en fin de compte, qui réunit toutes ces victimes, c'est, en fin de compte, le fait qu'elles ont toutes été, à un moment donné, victimes d'une infraction pénale, victimes d'un infracteur. Et puis, aujourd'hui, on a étendu cette notion à toutes les victimes d'accidents climatiques, d'événements climatiques. Nous sommes intervenus massivement lors du passage du cyclone Irma dans les îles. Nous avons aujourd'hui à prendre en charge des victimes d'ouragans, de tornades, comme on voit ici ou là. Et puis, on a toutes les victimes qui vont avoir... alors, on a les suicides aussi, hein, les familles endeuillées suite à des suicides, où là, effectivement, nous les accompagnons. Il n'y a pas d'infraction pénale, bien évidemment. En tout cas, le suicide, aujourd'hui, n'est pas considéré comme tel. Et puis, nous avons les victimes à l'étranger. Alors, soit d'infraction, ça peut être aussi des accidents de la circulation, ça peut être des crashs d'avion, ça peut être des trains qui déraillent, ça peut être des cars qui tombent dans le ravin, comme on a eu il y a déjà 16 ou 17 ans dans la Nièvre pour un quart de Nivernais. Voilà, donc c'est toutes les personnes qui ont subi un préjudice et qui ont besoin d'accompagnement, ce qui fait quand même beaucoup de monde.
Et les préjudices climatiques, on peut appeler ça comme ça pour les événements surnaturels, ça arrive de plus en plus et c'est quelque chose qui revient maintenant de plus en plus, malheureusement aussi, on le voit avec tout ce qui se passe un peu partout, les incendies, comme vous dites, les tornades, etc.
Oui, là, effectivement, il y a besoin d'activer des droits. Il y a des gens qui ont tout perdu. Donc, effectivement, les préfectures peuvent faire appel à nous dans ces événements climatiques, conformément d'ailleurs aux prescriptions des comités locaux d'aide aux victimes et des compétences des préfets.
Alors, un profil donc de victime, ça va d'une personne qui reçoit directement des violences à celle également qui la voit, c'est important de le dire, qui est spectateur de ces violences, qu'elles soient verbales ou physiques, et je pense notamment aux enfants. Quelle est l'assistance que vous apportez dans ce cas-là pour ces profils-là, pour les enfants? Et c'est intéressant parce que vous êtes revenu juste avant sur l'exemple des chiens. C'est une nouvelle façon aussi d'apporter de l'aide à ces victimes-là.
Alors, les témoins, effectivement, il faut, vous l'avez très bien fait, distinguer les enfants des adultes. Dans le cadre des violences conjugales, les enfants qui sont témoins de victimes conjugales, depuis une circulaire récente du garde des Sceaux, sont considérés comme victimes. C'est quelque chose que nous appelions de nos voeux, parce qu'effectivement, un enfant ne peut pas grandir dans un climat de violence.
On pourrait comparer ça, un petit peu grossièrement, mais à un fumeur passif.
Sauf que elles sont pas passives, ces victimes, justement, et ces enfants qui voient les violences sont des victimes directes. Et moi, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'elles puissent être reconnues comme victimes par les tribunaux, alors sans forcément obtenir des dommages à intérêts, mais en tout cas avoir ce statut de victime. Et je rappelle que c'est une circonstance aggravante pour l'auteur qui frappe son conjoint ou sa conjointe devant ses enfants. Donc on a bien aujourd'hui un arsenal qui défend, en fin de compte, ces enfants et qui en font un statut de victime. Pour le reste, lorsque vous êtes témoin d'un accident et que vous êtes adulte, pour l'instant, vous n'êtes pas considéré comme victime. Et il y a tout un enjeu, effectivement, d'accompagnement, parce qu'on peut très bien imaginer que quelqu'un qui voit une autre personne se faire poignarder dans la rue soit choqué. Mais aujourd'hui, le droit ne la considère pas comme victime. Donc, il faut mettre les curseurs là où ils sont. Et nous considérons, nous, qu'il y a besoin aujourd'hui d'un accompagnement des témoins, d'une autre manière que les victimes, pas forcément, d'ailleurs, exclusivement par nous, les fédérations d'aide aux victimes, mais en tout état de cause, on peut très bien comprendre qu'il y a des événements traumatiques qui viennent choquer des personnes sans être directement impactées par l'infraction, en tout cas directement concernées.
Ça rejoint un petit peu les cellules psychologiques qui sont mises en place dans les écoles,
tout
par exemple,
fait,
quand il y a un événement frappant qui se passe pour même un élève qui va, je pense malheureusement à tous ces élèves qui parfois se suicident au sein de l'école, ils ouvrent une cellule psychologique, c'est pour apporter aux élèves qui sont choqués par ça, justement une assistance.
Voilà, c'est exactement cela. Dans un certain nombre de situations, effectivement, on le voit beaucoup sur les mineurs, mais on peut le voir aussi sur le suicide au travail, on a des personnes qui, effectivement, ont besoin d'une assistance psychologique. Et alors, effectivement, les cellules médicaux d'urgence psychiatriques sont là pour ça, elles sont diligentées par le SAMU aujourd'hui sur le territoire et donc elles viennent appuyer dans le cœur de l'événement les autres professionnels pour faire en sorte que les victimes puissent dépasser ce traumatisme. Ce que je veux dire, c'est qu'en matière de traumatisme psychologique, plus une victime est prise, est accompagnée rapidement, plus elle a de chance de s'en sortir et de dépasser ce traumatisme rapidement. Donc c'est vraiment un enjeu extrêmement important qui nécessite de la réactivité, mais du professionnalisme aussi.
Ça évite aussi le fait que cet enfant en question finisse plus tard soit victime, soit auteur, peut-être en voulant imiter malheureusement ce qu'il a vu en étant plus jeune.
Voilà, c'est éviter les phénomènes de transfert. Donc on le sait très bien dans le cadre des violences conjugales, on le sait très bien dans le cadre des incestes, des viols sur mineurs, on sait très bien qu'il y a des phénomènes de transfert. Alors soit les personnes seront victimes toute leur vie, soit elles seront auteurs à leur tour. Et ce qu'on voit dans les derniers procès d'assises du département, c'est qu'effectivement, les auteurs ont malheureusement été tous et toutes victimes de traumatismes durant leur enfance, qui n'a jamais été accompagné, qui n'a jamais été dit même, et voire sanctionné. Donc il faut casser cette chaîne des transferts et casser cette absence d'accompagnement psychologique, d'accompagnement juridique, d'accompagnement social de tous ceux qui sont exposés ou impactés indirectement ou directement par une infraction, pour effectivement stopper la violence. Et c'est un enjeu majeur, je crois, de notre société aujourd'hui. On ne réussira pas à dépasser l'insécurité, notamment sur les violences, sans parler, en fin de compte, des politiques de prévention et sans parler de ce qui se passe dans les familles.
Et c'est un enjeu de société, c'est un enjeu viral, mais pourtant qui fait encore débat et qui est loin d'être réglé. 22 000 enfants victimes d'inceste en 2021. Alors, c'est un chiffre qui est approximatif. Ce qui n'est pas approximatif, mais plutôt alarmant, c'est que seulement 750 condamnations sont prononcées pour toute violence sexuelle sur mineurs. Il y a un écart qui est considérable. Comment on règle ce problème ?
Alors, c'est toujours difficile de répondre sur les chiffres. Parce que la seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ce qu'on estime être des violences incestueuses ou sexuelles sur les mineurs, sur les possibilités de poursuite parce que il nous faut des preuves. Et de l'autre côté, sur ce qui est effectivement indénonçable aujourd'hui, puisque c'est le chiffre noir dont vous parlez, effectivement, il y a des écarts considérables. Et donc, il faut les réduire, et il faut faire en sorte qu'effectivement, on puisse très rapidement identifier les personnes qui sont victimes. La première chose, c'est le dépistage et le repérage. Les médecins, les infirmières scolaires, les services d'urgence, lorsque les enfants passent dans les urgences, tout le monde doit poser cette question aujourd'hui. C'est la première chose. Y a-t-il des violences à la maison? Et toi, qu'est-ce que tu subis réellement? Décris-nous, voilà. Si on posait systématiquement la question à tous les enfants, dès leur plus jeune âge jusqu'à l'âge de leurs 18 ans, y aurait déjà des progrès de fait. La deuxième chose, c'est effectivement la collecte des preuves. Et ça, on sait que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et là, on n'a pas de solution à part d'arriver immédiatement après les faits. Et puis la troisième, quand même, je voudrais vous dire, c'est qu'on a de plus en plus quand même de poursuites. Et de poursuites avec des lourdes condamnations. Les dernières séances d'assises de la cour d'assises de la Nièvre n'ont concerné pratiquement exclusivement que des affaires d'agression sexuelle sur mineurs ou adultes, mais principalement sur mineurs, avec des condamnations extrêmement lourdes. Donc, les choses sont en passe d'être levées. On est en train de créer dans la Nièvre l'unité d'accueil pour enfants en danger. Donc, on est bien dans cette idée de trouver des dispositifs pour accueillir, accompagner les enfants victimes. Si on a un chien d'assistance dans la Nièvre, c'est parce qu'on veut se lancer dans l'expérimentation et libérer encore plus qu'elle ne l'est la parole des enfants. Et puis, l'entourage, j'ai envie de dire, tout à chacun a aussi cette responsabilité de repérer les enfants qui sont victimes.
Et libérer la parole, c'est aussi un sujet complexe parce que c'est des fois ce qui est le plus compliqué d'en parler. J'ai des exemples, Marina Foïs, Colin Berry, Patrice Evra, ce sont des exemples de personnes célèbres qui libèrent la parole sur ces violences qu'ils ont connues dans leur enfance. Est-ce que, à l'image de Me Too, de Balance ton porc et plein d'autres mouvements qui sont lancés comme ça, est-ce que ça facilite justement la libération de la parole pour beaucoup et que ça donne des exemples pour les plus jeunes aussi d'en parler?
Alors, le mouvement MeToo, Balance ton porc, a constitué une rupture indéniable dans la dénonciation des faits, avec toutes les précautions qu'il faut prendre sur le plan de faire une justice médiatique plutôt qu'une justice...
Éviter le tribunal médiatique, oui, exactement. Oui.
Et c'est quand même un peu ennuyeux quand même sur le plan des principes et de l'état de droit. En revanche, effectivement, que des personnalités connues racontent ce qu'elles ont vécu et dire que ça doit s'arrêter, c'est toujours des signes intéressants parce que ça permet quand même de... C'est des voix qui portent, c'est des exemples pour un certain nombre. Je pense à Patrice Evra. Mais vous voyez aussi qu'il y a des victimes qui viennent parler une fois que les faits sont prescrits. Je pense à l'affaire Kouchner quand même. Et qu'on ne me dise pas que c'est un hasard parce qu'elle était avocate, Camille Kouchner, et elle a dénoncé les faits une fois qu'elle a su que les auteurs
ne pouvaient pas être condamnés. Voilà, il faut expliquer qu'il y a une période où...
Les prescriptions, c'est long. Voilà. Et donc, c'est pas un hasard aussi si les victimes parlent une fois que les prescriptions sont actées. Donc, voilà, il faut tenir compte de tout ça. Ce qu'il faut, c'est évidemment que la parole soit libérée et croire les victimes. Et envoyer des signes quand même percutants à la société. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'aujourd'hui, on lutte contre les violences conjugales, qu'on lutte contre les infractions sexuelles. Enfin, quand vous voyez ce qui se passe au gouvernement, c'est quand même extrêmement ennuyeux.
Vous parlez évidemment de la mise en place de personnes haut placées qui ont des...
de dénonciations d'un certain nombre de ministres, sans que ça a l'air d'émouvoir la première d'entre elles, la première ministre, autrement qu'en disant il faut que les victimes portent plainte. C'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça, et je pense que le message devrait être un peu plus ferme. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce milieu résiste. Et c'est dommage parce que c'est lui qui doit donner l'exemple.
Et ces personnes restent des personnes haut placées et...
présumées innocentes, hein, je le rappelle.
Oui, voilà, il y a ça aussi, il ne faut pas oublier.
J'ai cette précaution oratoire de dire qu'effectivement, seule la justice pourra condamner les gens. Mais en tout cas, ça ne donne pas un exemple parfait quand plusieurs femmes disent avoir été victimes d'infractions sexuelles et qu'on balaye ça d'un trait de plume en disant il faut qu'elle porte plainte. Je pense que le débat doit se situer à un autre niveau, dire que d'abord c'est toujours ennuyeux quand même. parce que des victimes disent pas les choses comme ça au hasard. Enfin, moi, j'en ai quand même rarement vu, voire jamais. Ça fait 20 ans quand même que je suis dans la deux victimes, donc j'ai quand même une certaine expérience, une certaine mise en abîme des choses. Deuxièmement, je pense qu'il faut envoyer des signes extrêmement fort et dire qu'on croit les victimes, tout en pouvant dire qu'on croit effectivement ses collaborateurs, mais en tout cas dire aussi qu'on les croit et que, quoi qu'il arrive, ce sont des drames et qu'on ne laissera pas passer.
Et c'est généralement la voix de, si on prend l'exemple des femmes, d'une femme qui va amener la voix d'une autre femme, d'une autre femme, à l'exemple de Patrick Pauvre d'Arvor, par exemple, où toutes ces femmes se sont réunies pour Mediapart et dénoncer tout ce qui s'est passé.
Et là où est le pouvoir, on sait très bien que c'est très compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'il faut envoyer des signes extrêmement forts, tout en respectant les droits des uns et des autres, hein. Tout en respectant la parole des victimes, la présomption d'innocence, tout en disant que peut-être les gens peuvent rester en fonction. Mais lorsqu'ils ont été condamnés, il devrait y avoir une déchéance très radicale et absolue des droits politiques des personnes dans le pouvoir.
Ça fait partie de ces missions que vous avez dans la Fondation France Victimes.
Fédération.
Aussi, dans la Fédération, pardon, Fondation, oui, France Victimes.
Encore pas.
Il y a aussi celui de promouvoir les droits aux victimes. Alors, les différents profils qui viennent vers vous sont jamais vraiment renseignés sur ce qui leur est possible ?
Alors, pas forcément, mais en tout cas, certaines viennent chercher des confirmations, certaines viennent poser des questions dès le début, certaines sont noyées dans le labyrinthe des lois, et on peut le comprendre, parce que c'est quand même compliqué, et puis d'autres ont véritablement besoin d'accompagnement étendu, et aujourd'hui, on voit bien que on travaille avec tout le monde, le procureur, la police, la gendarmerie, l'hôpital, on travaille les travailleurs sociaux du conseil départemental, donc on travaille avec tout le monde. L'idée, c'est de savoir, en fin de compte, à partir du moment où on est le réceptacle de toutes ces personnes qui sont touchées par une infraction, comment est-ce qu'on les accompagne et comment est-ce qu'on les oriente. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, les gens n'ont pas besoin de tous du même degré d'accompagnement, et quelqu'un qui est victime d'un accident de voiture pour remplir un constat ou pour remplir des problématique assurantielle, on va pas l'accompagner sur des mois. Voilà.
La durée est définie en fonction aussi de l'impact psychologique sur la personne, évidemment.
L'impact psychologique, l'étendue de l'infraction, s'il y a une enquête ou s'il y a une instruction, c'est quand même pas la même chose. En matière de viol, généralement, il y a systématiquement des instructions, donc c'est long. Il faut se rendre à Bourges, parce que le pôle d'instruction est à Bourges. Donc, effectivement, quand il y a des enfants, c'est encore plus long, parce qu'il faut les expertises psychologiques. Pour l'auteur, il faut une expertise psychologique et une expertise psychiatrique, donc c'est quand même très long dans la procédure. Les victimes s'interrogent. Donc, voilà. Et puis, il faut préparer les victimes au procès. Le procès va être un combat quand même pour elles. Le procès va être l'occasion qu'elles puissent exprimer ce qu'elles ont vécu. Elles vont pouvoir parler, mais ça va être aussi difficile. Et l'intérêt quand même de la victime, c'est que le procureur ait suffisamment d'éléments pour requérir une peine qui soit suffisamment importante pour protéger la société. Après, ce qui ne veut pas dire que on n'a pas une vision de réinsertion des auteurs et qu'on n'ait pas besoin de dialogue entre les auteurs et les victimes. C'est ce qu'on fait dans la justice restaurative. Mais une fois que tout le monde est condamné, une fois que les gens ont chacun leur statut. Donc voilà, ça prend du temps, il faut accepter de dire que c'est complexe, mais c'est comme dans tout domaine, j'ai envie de dire. Moi, quand j'ai un problème de voiture, je vais chez le garagiste. Quand j'ai un problème pour placer mes sous, je vais à la banque. Bon, voilà. Eh ben, quand vous avez un problème juridique, vous allez chez un juriste. Quand vous avez un problème de victimologie, vous allez à l'association des deux victimes. C'est tout à fait normal. Après, à chacun son travail, à chacun sa mission. Notre mission, c'est d'accompagner les victimes, de les soutenir tout au long de la procédure et de faire en sorte qu'après, elles puissent obtenir des dommages et intérêts. Et généralement, les auteurs étant insolvables, on saisit les fonds de garantie. Et de l'autre côté, qu'elles puissent être suffisamment protégées, soit par leurs avocats, qui font quand même une grosse partie du travail quand même sur au moment du procès. Et puis, s'il y a des dispositifs un peu plus important, que ce soit les bracelets anti-rapprochement, que ce soit les téléphones grave danger, les alarmes portatives, eh bien, on va le faire avec elles.
Et l'accompagnement aussi dans le fait de se retrouver, des fois, face à son agresseur.
Oui, c'est compliqué, ça.
C'est quelque chose de compliqué aussi, psychologiquement, et de devoir parler. Et ça rejoint plus ou moins aussi un de vos engagements au sein de France Victimes. Ça s'appelle la justice restaurative. Oui. Alors, j'aimerais revenir sur ce que c'est, en fait, parce que c'est très intéressant, quand même.
Alors, moi, je suis pas un technicien à la justice restaurative, mais bon, l'idée de la justice restaurative, c'est que chacun comprenne ce qu'est l'autre. On fait tomber le monstre pour la victime, qui est l'auteur, et de l'autre côté, on fait tomber l'idée que la victime n'est rien pour l'auteur et qu'il y a beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive dans la médiation restaurative, donc où là, les gens se connaissent, on va se parler. Aujourd'hui, les criminologues, Les victimologues sont unanimes. La victime a besoin, pour se reconstruire de manière totale, d'entendre de la part d'un auteur « tu n'es coupable de rien ». C'est absolument essentiel dans le processus de réparation et de restauration. Et c'est ça. Nous, on peut le dire. Les magistrats peuvent le dire, les psychologues des associations peuvent le dire, les juristes des associations, non. Alors, évidemment, ça va, on entame le processus, mais ce n'est pas ça qu'elles ont besoin. Elles ont besoin d'entendre. Alors, l'idéal, c'est au procès, évidemment, que l'auteur dise « mais je suis coupable de tout et tu n'es coupable de rien ». Mais en tout état de cause, lorsqu'elles entendent un auteur qui leur explique qu'il est coupable de tout et qu'elles n'y sont pour rien, et qu'on peut se promener la nuit sans difficulté, on peut s'habiller comme on veut sans difficulté, et que ce n'est pas un appel au viol, c'est extrêmement important et c'est la base, le fondement de la reconstruction.
Jérôme Moreau, je vous propose qu'on fasse une pause musicale, ouais. Une pause musicale que vous m'avez conseillé. Ça s'appelle Bella Ciao de Thomas Fersen. Pourquoi cette musique?
Alors, Bella Ciao, parce que c'est quand même la chanson du droit des femmes. Et voilà, c'est la chanson révolutionnaire des femmes italiennes. Et puis, je trouve que Thomas Fersen a fait une version qui est très enlevée, qui est très, voilà, qui pulse. Donc, voilà, je trouve que ça répond bien un peu au canon de l'aide aux victimes aujourd'hui. Être partout, à tout moment. Et puis, sur des situations les plus difficiles, enfin, même si elle a un côté un peu politique et révolutionnaire, il ne faut pas que vos auditeurs y voient un quelconque engagement vis-à-vis de quelconque parti politique, mais je trouve que c'est quand même l'histoire, et que cette histoire, elle a traversé quand même plusieurs décennies, voire les siècles, et que Bella Ciao est un beau symbole à l'égard du droit des femmes.
On va prendre un verre d'eau et on reviendra juste après sur les 35e Assises Nationales des Associations d'Aide aux Victimes. C'était à la maison mardi et hier.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. La gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Mon invité est Jérôme Moreau, vice-président national de la Fédération France Victimes et président de l'association France Victimes 58, également vice-président de la Fédération Européenne. Dans vos engagements aussi, il y a différentes sortes de violences, et c'est là où c'est intéressant. On remarque que la violence peut venir de n'importe où, avec n'importe quel support, si je puis dire. C'est l'exemple du cyberharcèlement, par exemple. C'est un fléau qui est de plus en plus récurrent, qui est de plus en plus présent aussi.
Oui, alors évidemment, puisque la société est de plus en plus
cyberconnectée,
ouais, j'allais dire. Effectivement, les agresseurs ont bien compris tout l'intérêt qu'il y avait d'employer ces nouveaux dispositifs, alors que ce soit pour vous soutirer de l'argent, que ce soit pour vous attirer dans les filets, que ce soit pour se connecter pour des rencontres, voilà, c'est toujours très inventif et ils ont toujours un temps d'avance sur l'État et sur ceux qui sont en charge de la sécurité des personnes. Et effectivement, on voit une augmentation très claire et aujourd'hui, alors le problème de la cybercriminalité, c'est que l'auteur est loin et la victime est proche. C'est que la victime, c'est vous, c'est moi, c'est voilà. Mais où est-ce qu'est l'auteur quand il dépasse les frontières de l'Europe? quasiment impossible. Et on sait très bien qu'on les retrouvera pas. Donc, et pourtant, ils font florès, là encore. Donc, c'est extrêmement difficile. En tout cas, ce qu'il faut, c'est trouver les mécanismes de prévention et trouver le fait que les victimes, en tout cas, les potentielles victimes, puissent échapper à cela.
Et ce qui est intéressant, c'est que sur votre site internet, ça part de toutes les solutions juridiques, mais ça part au tout début aussi de comment changer un mot de passe.
Oui, bah oui. Alors, encore une fois, moi, je suis pas un grand technicien de toutes ces questions-là, mais effectivement, il faut aller sur les sites spécialisés, notamment ceux du gouvernement, qui sont très bien faits. Et effectivement, il faut changer les mots de passe régulièrement. Il faut faire attention. Enfin, on ne chatte pas avec des gens qu'on connaît pas. On répond pas à des mails qui vous demandent de l'argent comme ça à droite à gauche. Aujourd'hui, alors c'est facile à dire quand on est sur une table devant un micro comme je le suis là, mais en tout cas sur les mails qui vous disent il faut entrer votre numéro de code pour vous faire rembourser. Voilà, bon, on sait très bien qu'aujourd'hui c'est faux. Donc il faut dire aux gens, mais lorsque vous avez des institutions ou des personnes qui sont connectées avec vous, enfin soi-disant, que ce soit votre banque, votre assurance, que ce soit les impôts, que ce soit votre caisse primaire, votre mutuelle, mais allez les voir directement dans les guichets et là vous saurez, parce que sinon c'est trop compliqué. Et effectivement, alors parce qu'il faut bien comprendre, hein, une fois que l'argent est parti, vous la reverrez pas. Et comme généralement, ce sont sur des sommes qui peuvent apparaître modiques, 100, 200 euros, c'est fini. On n'arrivera jamais à
les récupérer.
À les récupérer. Oui. Donc,
et c'est éviter que ça se reproduise surtout,
mais
en fait.
Quand vous faites 1 million de connexions et que vous avez 100 euros, vous imaginez le jackpot pour les personnes qui sont en face. Donc voilà, c'est pas très compliqué. 1 million de personnes en Europe, aujourd'hui, c'est rien. Donc voilà. Mais même si elles soutirent que 3 euros, ça fait 3 millions d'euros, ça vous laisse quand même un peu de jours devant vous pour même payer de l'essence malgré l'inflation. Donc, le mieux, c'est de ne jamais répondre, de ne jamais donner ses mots de passe, de ne jamais payer sur Internet, sauf sur les sites officiels, etc., etc.
Et de se protéger au maximum, ouais, sur les réseaux. Il y a plusieurs obligations à respecter pour qu'une association adhère à votre fédération. Une en particulier sur laquelle j'aimerais revenir, qui est un petit peu en lien avec la gratuité, c'est également la confidentialité. Mmh. Est-ce que c'est pour protéger les victimes avant tout ?
Alors évidemment, puisque nous avons accès à un certain nombre d'informations, notamment des crimes et délits, et il faut effectivement que ça reste tout à fait confidentiel. Nous sommes dans les procédures d'enquête, puisque nous faisons des actes de procédure par le biais de l'évaluation de la dangerosité de l'auteur dans le cadre des évaluations victimes, ce qu'on appelle le VVI, hein, qui est une nouvelle disposition de protection qui vient directement de l'Europe aujourd'hui. Et donc, c'est une pièce de procédure, c'est une pièce d'enquête. Et puis, nous avons accès à certaines expertises qui viennent corroborer les versions et les allégations des victimes. Donc, effectivement, la confidentialité est essentielle et c'est une faute pénale pour les juristes, les psychologues ou les travailleurs sociaux qui viendraient à trahir cette confidentialité. En tout cas, j'y veille parce que c'est une donnée éthique. Et puis, on a des gens qui viennent aussi nous dire qu'ils ont été victimes, et alors que les enquêtes et les plaintes ne sont pas déposées. Donc,
ça se retrouve avec le secret professionnel pour les médecins et compagnie. Ouais.
Alors, on n'a pas le même, c'est pas la même étendue.
Non, bien sûr, mais voilà.
Nous avons l'obligation quand même de dénoncer, mais comme tout à chacun, les crimes et délits sur les mineurs. Nous avons l'obligation de dénoncer les victimes qui viendraient nous dire qu'en fin de compte, elles n'ont pas subi les faits qu'elles ont dénoncés et qui engendreraient une condamnation pour un auteur. Voilà, on a quand même un peu moins de confidentialité que les médecins. Et puis, on a quand même l'obligation, lorsqu'une femme, par exemple, vient nous dire qu'elle est victime de violence conjugale, si elle ne veut pas porter plainte, on dénoncera pas les faits. On l'amènera à faire cela conformément à notre éthique pour que ça s'arrête.
France Victime a été créée en 1986, je me trompe pas. Comment a évolué l'aide et les droits apportés aux victimes au fil du temps ? On parlait tout à l'heure de tout ce que vous mettez en place, beaucoup de nouvelles choses. Justement, ça fait partie de l'évolution.
Oui, j'ai envie de dire, on est passé de l'aide à la protection. On est passé, en fin de compte, de l'accompagnement véritablement des victimes qu'on a fait dès 1986, mais beaucoup, enfin les premières associations sont arrivées avant les années 80. Elles se sont regroupées en fédération en 1986 sous l'égide de Robert Badinter, à l'époque ministre de la Justice, et puis on n'était quand même que sur l'accompagnement juridique, hein, de manière un peu éparse de l'accompagnement psychologique. Aujourd'hui, on a un véritable arsenal, de véritables dispositifs étendus pour protéger effectivement les droits des victimes, mais aussi assurer la protection physique. Je pense au téléphone grave danger, je pense au bracelet anti-rapprochement. Donc on est vraiment dans un nouvel essor de l'aide aux victimes, dans une nouvelle vision, avec beaucoup de points d'accroche. Et l'idée quand même qu'on ne peut pas tout faire seul et qu'il faut réorienter les personnes touchées par une infraction pénale, touchées par un événement traumatique, vers celles et ceux qui peuvent aussi nous aider et qui peuvent contribuer à la protection des victimes et à la restauration des victimes.
Justement, la protection des victimes, ça passe aussi par des propositions que vous faites au gouvernement à chaque mandat.
Oui, alors là, on s'est un peu calmé, j'ai envie de dire, en 2022. D'abord parce que ça a été un peu compliqué quand même sous cette mandature, avec l'idée que on a eu plutôt l'impression quand même d'avoir été entendu sur les moyens, mais peu sur l'ambition de l'aide aux victimes, et notamment sur l'interministérialité. Donc voilà, on reste sur cette idée de demander une véritable mission interministérielle. On demande également à ce que toutes les victimes puissent être accompagnées, puissent être écoutées 24 heures sur 24, notamment par le biais du numéro 116-006, qui est le numéro européen d'aide aux victimes, qui est insuffisamment mis en place et déployé en France. On demande également à ce qu'il y ait des unités médico-judiciaires, des unités de médecine légale du vivant, parce que bon, des morts, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas, qu'il y ait au moins une médecine légale du vivant dans chaque département. On demande qu'il y ait des unités d'accueil pédiatrique pour enfants en danger, des UAPED, dans chaque département, de manière immédiate. Enfin, ça aurait dû être fait au 1er juillet. On n'avance pas d'un iota sur un certain nombre de départements et de territoires, et notamment la Nièvre d'ailleurs, on peut le dire. Donc voilà, on demande tout ça, et c'est pas très très compliqué. Il faut un peu de volonté politique, il faut que les ARS s'y mettent, et puis il faut aussi que aujourd'hui, eh bien, on ait quelques moyens supplémentaires et que tout cela soit dirigé par les procureurs de la République. Il faut une politique pénale sur les territoires qui soit véritablement activable, non pas uniquement par le procureur de la République sur les forces de l'ordre et sur les besoins de l'enquête, mais véritablement de manière interdisciplinaire. Et le procureur en matière d'aide aux victimes devra avoir la main sur les hôpitaux, sur l'éducation nationale, sur voilà, que sais-je encore.
Dans ces propositions-là, il y en avait 10 qui étaient orientées, adressées à Marlène Schiappa, qui était secrétaire d'État à ce moment-là.
Au moment du Grenelle, oui.
Oui, voilà, et c'est un sujet important, malheureusement récurrent, c'est ce qui revient le plus souvent aussi.
Alors,
à France Victime.
Non, mais en tout cas, c'est un sujet qui est non négligeable, qui fait à peu près entre 30 et 40% de nos interventions, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on met en lumière ce phénomène-là.
En 2021, c'est 113 féminicides quand même qui sont recensés.
Oui, oui, oui. Non, mais je nie pas, je dis pas les chiffres. Hein. Au contraire, je les prends et je dis, il faut faire quelque chose. Donc voilà. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et il faut avoir une politique sur le long terme. Il faut accepter que les choses prennent du temps et que les sujets soient complexes. Et si on regarde les pays étrangers qui se sont mis véritablement dans la prévention des violences faites aux femmes, qui se sont mis dans la répression des violences faites aux femmes à chaque fois, pour que les chiffres tombent et qu'il y ait une véritable diminution, il faut entre 7 et 10 ans. Bon, nous, ça fait 4 ans. Donc, il faut accepter, malheureusement, que on est encore des femmes pendant 6-7 ans qui soient victimes. Et je le dis bien avec toutes les précautions d'usage, c'est que pour nous, à chaque fois, c'est un drame et qu'on sait qu'il va y avoir des gens qui souffrent et qu'on n'aura rien pu faire. Et encore une fois, c'est quelque chose que nous déplorons parce que notre but, c'est de protéger les victimes et c'est qu'il y en ait moins. Donc, vous voyez, mais au moins les premières pierres sont posées, il va falloir avoir de la constance.
Il faut malheureusement accepter ça pour que
il
ça
avance. Il va falloir
quand
avoir
même,
de la constance aussi. Vous savez, c'est pas compliqué, hein. Les politiques pénales, elles changent tous les 3 ans. Ça peut pas fonctionner. À un moment donné, c'était justice restaurative. Fallait mettre des auteurs et des victimes en face. Alors là, on a mis le paquet. On a mis 3 millions d'euros sur la formation des services de protection judiciaire de la jeunesse, sur les services d'insertion et de probation, et puis pour les associations. Alors là, tout le monde a été formé. C'est sûr qu'on a travaillé ensemble. Hein. Au bout de 2 ans, on n'avait pas fini les formations. Le ministère de la Justice dit, mais combien d'auteurs et de victimes ont été confrontés? Alors, on dit, mais attendez, faut nous laisser le temps d'être formés. Comme ça va passer vite, on arrête. Alors voilà, on a mis 3 millions d'euros sur la formation, on a arrêté. Alors maintenant, on fait victime de violence conjugale, alors très bien, mais laissez-nous travailler. Qu'on nous laisse du temps pour mettre en place les dispositifs, les évaluer, corriger ce qui va pas, amplifier ce qui fonctionne. Enfin, les téléphones grave danger, les barres, ça fonctionne, mais qu'on nous laisse travailler.
Pouvoir avoir du recul pour mettre en place les meilleures choses à l'avenir.
En matière de santé publique, il faut une génération pour la prévention. C'est-à-dire qu'il faut 25 ans. En matière de justice, tout le monde veut que ça soit en 1 an, 2 ans. C'est pas possible. Donc, qu'on nous laisse faire, et puis après, on évaluera. Mais on est quand même des adultes, on est responsables, on est des professionnels de l'aide aux victimes, on sait ce qu'il faut faire. Donc, qu'on nous laisse un peu travailler, qu'on nous donne de l'oxygène, qu'on nous donne des moyens, et on y arrivera.
Dans l'accompagnement complet que vous apportez aux victimes, quelle est la place de la santé ?
Alors, je vais vous voulez en venir. Ce qu'on remarque, mais ça fait longtemps que je suis un peu en réflexion, sans avoir forcément d'accroche véritable, mais que je dis... Une infraction impacte la santé des personnes. Alors, impacte physiquement, quand vous avez des séquelles, vous êtes victime d'un accident de voiture, vous passez sous une voiture parce que quelqu'un est ivre, vous êtes tétraplégique, là, on voit bien l'impact immédiat. Et pour le coup, je pense que la solidarité nationale s'est vraiment mise au diapason de ce qu'il y avait besoin. Sur le plan, ces infractions routières et sur le plan des besoins de compensation au niveau physique. Bon. Pour le reste, c'était beaucoup plus compliqué. Et vous parliez de cyberharcèlement, vous avez parlé des violences faites aux femmes, vous avez parlé des enfants. On n'a pas mesuré l'impact sur la santé, en tout cas on l'a pas vu et on n'a pas voulu l'anticiper. Et aujourd'hui, c'est évident que on a un impact très fort. Alors sur le plan psychologique, vous avez raison, parfois sur le plan psychiatrique, parfois sur le plan physique. Je me souviens quand même de procès avec des enfants, ça fait pas si longtemps, aux assises. Moi, je les conclue tous, hein, les procès d'assises où on accompagne des enfants au niveau pénal. Parce que je veux savoir les condamnations. Et puis après, avec les avocats que nous avons désignés, on tranche les dommages et intérêts. Donc, je finis systématiquement les procès d'assises. C'est une règle que je me donne en tant que président. Et ce qu'on voit quand même, c'est l'impact de ces psychologiques sur ces enfants. D'abord, ils sont soulagés quand ils entendent les auteurs condamnés. Ils disent « on va pouvoir se reconstruire ». Et puis, on voit bien que certains ont accusé des retards, des choses qui sont de l'ordre tout simplement physique et que on n'a pas su accompagner. Donc, je pense qu'il faut faire un effort et un lien très, très important entre effectivement santé et justice aujourd'hui.
C'est justement le thème des 35e Assises Nationales des Associations d'Aide aux Victimes qui avait lieu donc à la maison à Nevers. Quel est le but de cette journée ?
L'idée, c'est de faire un point. Faire un point sur l'ensemble des dispositifs qui fonctionnent, de voir les partenariats qui peuvent être montés localement à partir de ce qui va nous être dit et de ce qui nous a été dit.
Des tables rondes,
conversations, des discussions. Le Centre National de Ressources et de Résilience est intervenu à plusieurs reprises, des médecins légistes sont intervenus. On a bien vu quand même quel était le poids de l'expertise aussi, et c'est important quand même d'avoir des expertises qui soient bien faites pour décrire le préjudice des victimes, le préjudice psychologique, le préjudice physique, pour qu'on ait les bons dommages et intérêts, les bonnes condamnations, pour qu'on ait aussi qu'on puisse éclairer les juges ou les jurés. Donc effectivement, il y a un lien immédiat à faire. Et puis après, il y a l'accompagnement long cours, j'ai envie de dire. Et ça, c'est le rôle des centres nationaux, enfin du Centre national de résistance, de résilience, pardon, et des centres de thérapie qui sont au niveau local, enfin au niveau régional, adossés au centre hospitalier universitaire. Et c'est tout l'enjeu, ces centres de psychotrauma qui doivent nous épauler et dont on voit bien à partir de ces universités d'été, parce qu'on peut dire que c'est qu'on est un peu dans les universités d'été avec tous les chercheurs et tout, eh bien tout le chemin qui nous reste à parcourir. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est d'écouter tout ce qui nous a été dit, d'en tirer un peu ce qu'on a besoin pour chaque territoire, et puis de voir qu'en fin de compte, aujourd'hui, on ne peut plus faire seul, et que la justice a besoin de la santé, et que la santé a besoin de la justice.
Il y avait également la présence de monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Est-ce que c'est aussi l'occasion de lui parler de ce que vous nous dites, des problèmes, de ce que vous aimeriez mettre en plus en avant, de ce que vous aimeriez régler plus rapidement aussi ?
Vous avez vu que moi, je mâche pas mes mots. En tant que porte-parole,
et devant une personne comme Éric Dupond-Moretti, c'est pareil.
Évidemment, je suis pas là devant vos micros pour dire des choses que je ne relais pas. Tout ça, il le connaît. Je lui ai dit. Je lui ai même dit que lorsqu'il a publié son cahier des charges pour le numéro d'appel national, quand j'étais dans son bureau, je lui ai dit, je pense, Monsieur le Ministre, que vous n'avez même pas relu ce que vous avez publié. Donc lisez-le et après on sera d'accord. Effectivement, bon, voilà. Donc n'y a pas de raison de ne pas être franc. Alors après, il faut être courtois, c'est quand même l'État, donc voilà, et les ministres, donc il faut respecter les institutions. En tout cas, moi, je me fais un devoir de les respecter, de ne pas les critiquer.
Mais faire entendre les besoins de votre association avant tout.
Il faut être clair. Le réseau a besoin d'argent. Le réseau, les 130 associations, notamment, je pense aux ultramarins. Voilà, j'ai aussi cette voix-là à porter aujourd'hui. Donc, je dis les choses, oui. C'est pas parce que vous êtes ministre, c'est pas parce que vous êtes président de la République que, voilà, on n'a pas à dire les choses.
Pourquoi les ultramarins avant tout?
Alors, pourquoi les ultramarins? Alors, d'abord, parce que ce sont des situations insulaires avec des problèmes particuliers quand même. Hein. Si vous prenez Mayotte, si vous prenez la Guyane, vous voyez bien ce qui se passe quand même avec des problèmes de délinquance qui sont extrêmes, avec une situation de la femme, notamment à Mayotte.
Les Outre-mer qui sont un petit peu isolés, voilà des...
Alors, on a des associations hein, partout. Nous, on couvre tout, hein, nous. Donc, voilà, on sait faire, on analyse, on évalue. Donc, qu'on nous fasse confiance. Mais avec quand même des difficultés, il n'y a pas de ligne quand même téléphonique pour eux. Il n'y a pas de numéro d'écoute. Je rappelle que le 116-006 aujourd'hui ne fonctionne pas pour eux parce que... alors, on nous dit que ça coûte trop cher. Bon, ok, bon, c'est quand même à l'État de payer au titre de la solidarité nationale. Et puis, comme il n'est pas 24 heures sur 24 avec les décalages horaires, ils sont obligés d'appeler dans la nuit s'il y avait accès. Donc, ça peut pas aller. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut tenir compte de l'insularité. Il faut tenir compte de la configuration territoriale des ultramarins. Alors, avec certaines îles, voilà, on va dire Saint-Martin, par exemple, bon, voilà, on va relativiser le phénomène de délinquance. Mais en tout cas, avec certaines îles qui ont vraiment besoin d'un appui, qui ont vraiment besoin aujourd'hui de déployer une mise en place extrêmement importante. Vous savez, le 22 février, la Journée européenne des victimes, j'étais au ministère des Outre-mer. J'ai vu la préfète chargée de l'Outre-mer, qui est en gros le rôle de la ministre des Outre-mer, hein, sur le plan administratif. Voilà, je lui ai dit ce qu'on avait à dire. Voilà, vous me demandiez si je disais les choses. Oui, bien sûr, les personnes qui travaillent dans les territoires ultramarins ont besoin de moyens spécifiques, ont besoin d'accompagnement spécifique, ont besoin de politiques publiques spécifiques à l'égard de phénomènes de délinquants qui sont spécifiques, à l'égard de migrants. Voilà, Mayotte et la Guyane, c'est quand même très compliqué. Et à l'égard de délinquance, oui, qui est extrêmement ciblée sur un certain nombre d'infractions. Et encore une fois, la situation de la femme à Mayotte est quand même pas très enviable. Donc voilà, je pense qu'il faut donner des coups d'accélérateur là-dessus.
C'est encore une fois un de vos engagements. Avant de clore cet entretien, j'aimerais revenir sur un dernier aspect. Ça s'appelle Mes mots de vie. Hmm? C'est quoi Mes mots de vie?
Alors, Mes mots de vie, c'est une application web qui n'est pas une application que vous trouvez sur vos iPhones. Hein. Vous pouvez pas télécharger l'application. C'est une web application. Donc,
est-ce que ça rejoint aussi l'aspect de libérer la parole aussi?
Alors,
qu'on avait tout à l'heure.
L'idée, il y a trois enjeux, je crois, sur Mes mots de vie. Donc, vous tapez Mes mots de vie, M-E-M-O-D-E, plus loin, vie. L'idée, c'est d'abord un journal de bord pour les victimes de violences récurrentes, que ce soit les victimes de violences conjugales, qui a été quand même la première application pour laquelle on l'a créé, mais les victimes de harcèlement, et je pense à tous les jeunes là aujourd'hui, faut pas qu'ils hésitent à rentrer parce qu'on va avoir besoin de ça après pour les procès. C'est d'avoir le journal de bord et de dire comment vont les victimes et ce qu'elles ont subi.
C'est un journal intime en fait.
Voilà, et ça, il faut le consigner et on pourra réimprimer ça. La deuxième, c'est un coffre-fort numérique. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, que ce soit les certificats médicaux, que ce soit vos papiers, que ce soit voilà. C'est important pour les femmes qui se voient confisquer leur carte d'identité, leur relevé de bancaire, ou leur permis de conduire et que sais-je encore. Bon, voilà. Donc ça, vous pouvez tout scanner et impacter dans Mes mots de vie. Et puis, après, vous avez aussi toute la possibilité de trouver les numéros qui vont vous aider, vous accompagner. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, vous ouvrez votre journal, Mes mots de vie, avec la possibilité que c'est quelque chose qui est extrêmement sécurisé, qui est confidentiel. Bien évidemment, il n'y a que vous qui pouvez y avoir accès. Et avec une solution digitale que je ne maîtrise évidemment pas, c'est que vous appuyez sur un bouton particulier, vous arrivez sur une page web qui est impossible à identifier et de toute manière, voilà, on ne pourra pas savoir que vous avez été sur Mes mots de vie. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus parce qu'il y a quand même des choses de confidentialité pour la sécurité même des personnes, mais que les victimes ouvrent cela, sachez que c'est sécurisé. Et que même nous, d'ailleurs, Fédération France Victimes, qui tenons cette web application, de toute manière, on n'a accès à rien. Ça ne reste que personnel, ça ne reste que confidentiel, et c'est la propriété des victimes.
Mais ça permet voilà, de tout avoir voilà. Sur le téléphone.
Alors, voilà, mais encore une fois, vous ne passez que par Internet. Vous n'avez pas d'application Mémo de vie qui se télécharge comme une application, je sais pas, celle de votre banque, météo et tout ça. Non, là, vous allez sur Internet, vous tapez Mémo de vie, vous allez avoir la page d'ouverture, voilà, et vous ne pouvez repasser que par cette procédure. C'est pour ça que on vous explique dans Mémo de vie comment sortir en urgence, parce que il peut y avoir quelqu'un qui arrive, voilà. Donc, on vous explique comment sortir en urgence. Voilà, je vais pas en dire plus ici, mais en tout cas, il y a une possibilité de confidentialité immédiate.
Ma dernière question, elle est un petit peu plus personnelle.
Ouais.
Quelle est votre plus belle réussite au sein de France Victimes ? Vous nous avez donné 20 ans d'expérience.
Oui.
Il y a forcément une plus belle réussite.
Oui, enfin, mais je dirais que c'est la construction de l'unité médico-judiciaire quand même dans le département. Je suis très, très heureux qu'elle ait, même si encore une fois elle est imparfaite et insuffisamment dotée, mais je trouve qu'on a vraiment fait des progrès avec cette unité médico-judiciaire dans la collecte des preuves pour condamner les infracteurs et sauvegarder les droits des victimes. Donc voilà. Et puis... peut-être aussi d'avoir l'équipe que j'ai. Je trouve que c'est vraiment une satisfaction. J'ai une équipe formidable. Vous savez, moi, je suis président. Hein, donc, un président n'est rien sans son équipe. Aujourd'hui, c'est eux qui managent.
Vous êtes entouré de combien de personnes ?
Alors, nous avons 7 personnes à l'association, salariés, et nous avons 7-8 bénévoles, dont les administrateurs ad hoc, c'est-à-dire ceux qui représentent les enfants mineurs au procès parce que les parents sont auteurs. Voilà, donc eux, ils sont tous bénévoles. Donc oui, j'ai vraiment une très très bonne équipe et je les en remercie publiquement.
Et c'est important aussi de remercier tous ces bénévoles parce que les associations, que ce soit dans n'importe quel domaine, ont besoin de bénévoles. Merci Jérôme Moreau. Vous êtes vice-président national de la Fédération France Victimes, président de l'association France Victimes 58 et également vice-président européen. Et vous étiez avec nous pour cette émission spéciale consacrée aux aides aux victimes. Vous avez choisi d'écouter Balance ton quoi d'Angèle, encore une fois une chanson engagée.
Voilà, c'est le jour ou jamais, c'est le thème des assises, de dénoncer les infractions et que les victimes puissent mettre les choses en lumière. Donc oui, je trouve que c'est une belle chanson.
Juste après, on parle plus précisément des 35e Assises Nationales des Associations d'Aide aux Victimes à la Maison. BAC FM était présent. L'occasion également de vous faire part d'un entretien exclusif avec Éric Dupont-Moretti. Bougez pas.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, parler te faire en moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. T'es pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Parler te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Angèle, balance ton quoi, titre choisi par mon invité Jérôme Moreau, président de France Victimes 58, qui organisait les 35e Assises Nationales des Associations d'Aide aux Victimes sur le thème Santé et Justice. C'était à la maison aujourd'hui et hier. Un discours d'ouverture qu'il a débuté avec à ses côtés Maryse Lemaine, présidente de France Victimes, et Fabien Bazin, président du Conseil départemental de la Nièvre, qui nous a adressé un mot sur l'événement à l'issue de son discours.
Bien, écoutez, on est très heureux d'accueillir les Assises Nationales de France Victimes dans la Nièvre, à Nevers en particulier. C'est un sujet qui est important pour le département. Nous sommes extrêmement liés avec l'ANDAVI France Victimes 58 et nous avons récemment débloqué plusieurs dossiers. Le fait d'intégrer un assistant social dans la réception des plaintes avec les équipes de gendarmerie, une maison des victimes qui va bientôt voir le jour. En fait, on est très en mouvement sur ce sujet qui est important pour tous. Pour le département, c'est surtout la question de la petite enfance qui est en jeu. Le fait de ne plus avoir de ressources en pédopsychiatrie est un véritable sujet. J'ai interpellé d'ailleurs le garde des Sceaux à ce sujet.
Qui a dit qu'il allait répondre à votre alerte?
Il a dit qu'il allait répondre. Moi, je ne crois que ce que je vois, donc on verra si les faits sont au rendez-vous.
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti, qui était également présent, donc l'occasion de revenir avec lui sur l'événement et sur l'évolution de l'accompagnement des victimes. Bonjour Monsieur le ministre.
Bonjour Monsieur.
C'était important pour vous d'être présent à cette 35e assise?
Ah, c'est absolument essentiel. C'est un honneur pour moi et une grande joie d'être ici parce que il y a un partenariat très très fort entre le monde associatif qui a décidé de prendre en charge les victimes depuis de très nombreuses années et le ministère de la Justice. Et dans les exemples qui ont été cités à la fois par la présidente de l'association, par moi-même, on a la certitude que nous travaillons de façon extrêmement serrée, main dans la main. Je prends l'exemple du numéro de téléphone unique. Il y avait un petit blocage, il y avait des limitations des conversations dans le temps, vous savez. La présidente est venue m'expliquer ça à la chancellerie. On a débloqué cette situation et désormais le temps n'est plus compté. Ce qui est bien normal parce que quand les victimes s'expriment, et parfois pour la première fois, elles ont besoin de temps. Autre exemple, c'est les améliorations budgétaires qui ont été apportées. Autre exemple, c'est un décret récent que j'ai signé pour que les enfants qui sont témoins de violences conjugales aient un statut de partie civile, de victime et non pas de témoin. Autre exemple, une revendication de France Victimes pour que les femmes soient prévenues lorsque le compagnon sort d'un établissement pénitentiaire où il a purgé sa peine. Eh bien, j'ai signé le décret parce qu'il est normal qu'on puisse assurer mieux de prévention, davantage de prévention, pardon. Les exemples, je peux les multiplier. C'est ce que nous avons fait en matière de téléphone grave danger, ce que nous avons fait en matière de bracelet anti-rapprochement, les ordonnances de protection qui ont augmenté de 150%. Tout ça, c'est autant de choses qui permettent de mieux assurer la protection des victimes. La prise en charge des victimes est quelque chose qui est au cœur du dispositif. On a beaucoup travaillé ensemble. Je pense par exemple au lieu commun. L'hôpital devient un lieu où à la fois, naturellement, on constate les blessures, on les soigne bien sûr, mais où on met en place tout le processus judiciaire. Audition à l'hôpital, démarrage de la procédure pénale à l'hôpital. Tout ça, ça évite aux victimes de très nombreux déplacements, de trop nombreux interrogatoires, et ça permet voilà, de réconforter les victimes qui en ont grand besoin. Donc oui, partenariat très très étroit entre le ministère de la Justice et France Victimes et toutes les associations qui aident dans ce pays les victimes.
Des progrès matériels et sur le travail entre associations, mais également interministériels, sur lequel Monsieur Dupond-Moretti, garde des Sceaux, met un point d'honneur et souligne l'amélioration.
Ben, elles sont en cours d'amélioration, bien sûr, parce que je pense que tous les ministères ont conscience, et puis d'abord tout le monde a conscience de ce que sont les violences intrafamiliales, et tout le monde a envie, bien sûr, que ces violences insupportables dans une société civilisée, que ces violences soient éradiquées. Il y a, je vous donne un exemple, monsieur, l'UEAPED, c'est un lieu où les enfants qui ont été notamment témoins de violences conjugales vont être pris en charge. Là-dedans, il y a de l'interministériel, il y a du médical, il y a du psychologique, il y a du psychiatrique, il y a du judiciaire, donc interministérialité. L'UMJ, le lieu, par exemple, c'est un sujet qui vous préoccupe ici. ici. C'est aussi de l'interministériel, c'est la santé. Bien sûr, c'est le périmètre de la santé, mais en articulation et en coordination avec le ministère de la Justice. Alors, bien sûr qu'il y a toujours mieux, il y a toujours des progrès à faire.
Ça fait partie des progrès sur lesquels vous travaillez constamment. Ça vient aussi d'une demande qui est toujours plus forte. France Victime 58, c'est 1200 personnes qui ont été prises en charge en 2021. C'est l'importance aussi de toujours travailler sur le progrès, sur l'accompagnement.
Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, si on s'arrêtait en disant on a fait le travail, ce serait d'une insupportable arrogance et puis ce serait extrêmement inquiétant. Il y a toujours évidemment des choses à faire. Bien sûr, les efforts budgétaires, ils ne peuvent pas s'inscrire sur une année, ils doivent être dans un continuum, évidemment. Il y a un certain nombre de choses qui sont... Regardez, par exemple, il y a ce dispositif de réalité virtuelle. C'est quelque chose qui a été mis en place par des scientifiques. Ça a pour objectif d'éviter la récidive. On travaille sur ce programme. Nous n'avons pas encore les conclusions définitives. Oui, il y a toujours des choses à faire, bien sûr.
Des choses à faire constamment et des efforts également par les moyens mis en place par le gouvernement concernant notamment les violences intrafamiliales.
Nous avons envoyé massivement ce que l'on a appelé des sucres rapides qui sont venus en juridiction, 2000, 1000 au pénal, 1000 au civil. Et souvent, l'un de ces sucres rapides a été exclusivement affecté aux violences intrafamiliales. Et on a fait le bon choix. Il a été critiqué, ce choix, au début, mais les juridictions nous ont demandé de pérenniser. Donc, il y a maintenant, très nombreuses juridictions, un sucre rapide, juriste assistant, assistant de justice, affecté aux violences intrafamiliales, et nous avons bien l'intention, évidemment, de pérenniser cela. Et par ailleurs, dans les promesses qui ont été faites par le président de la République, il y a un renforcement des moyens humains de la justice en termes de magistrats, de juristes assistants, d'assistants de justice et de greffiers. Le nombre, c'est 8500, vous le savez. Et donc, il faudra que nous consacrions les efforts budgétaires à renforcer en termes humains les différentes juridictions de notre pays.
Ma dernière question, elle portera sur l'alerte que vous a lancée Madame Le Maine lors de son discours sur le budget. Vous allez travailler avec la Fédération justement sur ce sujet-là.
Écoutez, la présidente, elle est dans son rôle de présidente, hein. Vous l'avez entendu. Donc elle dit, Monsieur le garde des Sceaux, il y a des choses qui ont été faites, mais ça peut pas s'arrêter là. Et je lui ai répondu d'ailleurs, message reçu 5 sur 5, Madame la présidente.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à l'aide aux victimes à l'occasion de ces 35e assises qui est organisée à la maison. Je remercie l'ensemble des intervenants, Jérôme Moreau, président de France Victime 58, vice-président de la Fédération nationale et vice-président européen, Monsieur Bazin, président du Conseil départemental de la Nièvre, et Monsieur le ministre garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Cette émission est disponible sur le site de BAC FM, rubrique podcast, dans la catégorie émission spéciale. Je vous souhaite une belle soirée et je vous retrouve demain à 13h. Comme tous les jours, on parlera des vacances multisports. À demain, bye.